nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachés à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Clément Moutier.
Les Académies des sciences ont publié le jeudi 10 mai 2012 une déclaration commune inédite appelée G-Science. Cette déclaration a été remise à tous les dirigeants mondiaux qui vont se rencontrer dans le cadre du G8 les 18 et 19 mai à Camp David aux États-Unis. Guylain de Marsilly, membre de l'Académie des sciences que nous avons joint par téléphone, a participé à cette déclaration commune. Alors, monsieur de Marsilly, pourriez-vous nous éclairer sur cette initiative du G-Science ?
Alors, la déclaration commune du G-Science est quelque chose qui a démarré il y a 8 ans, à l'initiative de l'Angleterre, quand les pays du G8 se sont réunis, eh bien, les académies des sciences des pays du G8 ont décidé de se réunir et d'élaborer un ou deux ou trois messages scientifiques qu'il serait bon de transmettre aux chefs d'État quand ils se réunissent à l'occasion du G8, pour leur dire « Attention, il y a des problèmes scientifiques importants qui demandent votre attention et sur lesquels vous devriez réfléchir ensemble. » Donc depuis 8 ans, c'est ce qui se passe. Et l'année dernière, ce G8, on l'appelait encore comme ça, a eu lieu en France, et ce sont donc l'Académie des sciences française et ses membres qui ont choisi les deux thèmes qui ont été retenus comme message important à faire passer au président ou chef d'État des pays du G8. Depuis, on a décidé, et ça a été concrétisé par l'appellation non plus G8 mais G-Science, d'associer un nombre un peu plus grand d'académies des sciences que les seuls 8 pays du G8 qui sont, comme vous le rappelez, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, le Canada, le Japon et l'Australie. Et on a associé cette année 15 pays, c'est les Américains qui étaient les pays hôtes du G8, qui ont donc choisi les 3 thèmes et qui ont associé les 8 pays du G8, plus 5 pays qui sont les pays qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Chine, Afrique du Sud, et 2 pays en voie de développement, l'Indonésie et le Maroc. Donc ces 15 académies se sont réunies en février pour élaborer 3 textes qui ont été ensuite discutés au sein de chacune des académies pour arriver à un texte consensuel. Et ces 3 textes vont être donc remis le 18 mai au chef d'État au nom des 15 académies qui ont participé à leur élaboration. Voilà un peu l'histoire du G-Science. Et on appelle ça le G-Science plutôt pour dire que ce n'est pas limité aux 8 pays les plus riches de la planète.
Très bien. Et quels sont les 3 thèmes qui ont été choisis cette année ?
Ah donc, le choix a été fait par les Américains, c'est eux qui ont l'initiative de choisir les thèmes, et les autres académies amendent, corrigent, complètent les idées initiales émises par les Américains dans le cas qui nous intéresse. Alors, les 3 thèmes sont eau et énergie, c'est celui dont je me suis plus particulièrement occupé en allant à Washington en février. Le 2e, c'est les puits et les sources d'émissions de gaz à effet de serre, donc de particulier du CO2. Et le 3e, c'est les risques technologiques ou naturels et comment s'en prémunir. On peut penser, si vous voulez, que le 3e thème est un tout petit peu une suite de l'accident de Fukushima, où il y a eu l'accident nucléaire que vous connaissez. Et donc, quelles sont les mesures que l'on pourrait prendre en commun au niveau de la planète pour limiter les risques ou éviter qu'ils ne deviennent des catastrophes ou compenser, prémunir, corriger, aider à réparer, etc. Le thème effet de serre est qu'en fait extrêmement important puisque pas mal de pays, quand on leur propose de signer ou de s'impliquer dans le protocole de Kyoto, qui est de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, disent « oui, bon, d'accord, mais bon, comment est-ce qu'on va vérifier que ceux qui ont signé le protocole de Kyoto, par exemple, respectent leurs engagements ? Il faut donc qu'il y ait une certaine façon de mesurer les émissions, et d'ailleurs les puits, c'est-à-dire la disparition, la consommation de gaz à effet de serre dans la planète, pour savoir si les pays qui ont dit « oui, je vais réduire de 20% mes émissions » le font effectivement. Donc il faut avoir des moyens technologiques pour essayer de calculer ou de mesurer quelles sont les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la planète. C'est un sujet difficile, important, sur lequel il y a des travaux de recherche à faire pour arriver à avancer. Alors le 3e, c'est celui qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'eau et l'énergie. Ça paraît simple, mais en fait, dans l'esprit du public comme dans l'esprit des dirigeants, l'eau et l'énergie sont des sujets assez séparés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien évident entre la fabrication d'énergie d'une part et la consommation d'eau ou les problèmes de l'eau de l'autre. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Pour faire de l'énergie, il faut de l'eau. Par exemple, pour refroidir les centrales, qu'elles soient au charbon, au pétrole ou au nucléaire, il y a besoin d'un fleuve ou de consommation d'eau pour évaporer de l'eau dans des tours de réfrigération, de façon à pouvoir faire fonctionner les centrales. De même, pour fabriquer les centrales quelles qu'elles soient, il faut des matériaux, et ces matériaux contiennent une certaine part d'eau dans leur fabrication. Dans du béton, il y a de l'eau, dans de l'acier, il y a de l'eau, dans des plastiques, il y a de l'eau, donc il y a une consommation d'eau liée à la consommation d'énergie. Inversement, pour faire de l'eau, il faut de l'énergie, hein, ne serait-ce que pour traiter les eaux, les pomper, les amener à la pression, les faire venir de loin, ensuite les nettoyer quand elles sont sales pour les rejeter dans l'environnement, il y a aussi énormément besoin d'énergie. Donc, les recommandations du G-Science sont de dire, attendez, quand vous allez faire de la prospective sur 10, 20, 30, 50 ans de développement des moyens de production d'énergie et de satisfaction des besoins en eau, ces deux domaines ne sont pas indépendants, il faut les réfléchir en même temps et prendre des mesures qui soient cohérentes entre les deux besoins. On a besoin d'eau, on a besoin d'énergie, il faut réfléchir en même temps quand on fait des plans de production d'eau et d'énergie dans la planète. Voilà le message.
Merci Guilain de Marcilly. Donc je rappelle que vous êtes membre de l'Académie des sciences et que donc vous avez participé à l'élaboration de cette déclaration commune du G-Science. Merci à vous.
Merci à vous, monsieur.